RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, ces premières discussions sur l'Ukraine, incluant Américains, Européens et Ukrainiens, qui se sont déroulées à Paris. L'Élysée parle de discussions excellentes et constructives. Pierre-Olivier, dans un instant. Une photographe palestinienne, Samar Abou Elouf, remporte le World Press Photo avec la photo d'un enfant palestinien blessé l'an dernier, alors qu'il fuyait une attaque palestinienne à Gaza. Isabelle Chenu nous en dira plus. Et puis la conférence des religieux et des religieuses de France demande l'ouverture de toutes les archives sur l'abbé Pierre, y compris celles du Vatican. Ce jeudi, un livre-enquête affirme que le Vatican était au courant des agissements du prêtre depuis 1955, qu'il avait réclamé une procédure judiciaire mais que les évêques de France l'avaient freiné.
Christophe Paget.
Excellente et constructive. C'est de cette manière que l'Élysée commande ce soir les discussions sur l'Ukraine qui ont eu lieu à Paris aujourd'hui, en présence entre autres du secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'Élysée souligne l'importance d'avoir engagé un processus positif auquel les Européens sont associés. Pierre-Olivier du service international de RFI est avec nous pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour les Américains, il s'agit aussi de faire avancer les choses vers une fin du conflit russo-ukrainien.
Oui, alors en fait, Américains et Européens ont chacun leur intérêt dans ces pourparlers. C'est un premier volet de discussion qui vont se poursuivre, mais desquels déjà les deux pays pourraient ressortir gagnant. Toute la journée à Paris, les entretiens se sont enchaînés avec autour de la table des émissaires de Donald Trump, mais aussi des représentants ukrainiens. Un moyen pour l'Europe, jusqu'à présent exclue des pourparlers, de se repositionner dans le jeu et faire entendre sa voix. Côté américain, Donald Trump avait promis pendant sa campagne de régler le conflit en 24 heures. Mais même depuis son rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, les choses piétinent et le président américain veut à tout prix aboutir à une paix le plus vite possible. Et c'est donc vers les Européens que les Américains se tournent. Écoutez Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.
Ils ont compris qu'une paix juste et durable, une paix durable, ne peut être atteinte qu'avec, d'une certaine manière, le consentement des Européens et la contribution des Européens, non seulement en soutien de l'Ukraine, mais également le moment venu pour surveiller un cessez-le-feu. Et puis, lorsque la paix sera conclue, pour apporter les garanties de manière à ce qu'elle soit durable.
Alors, question principale qui n'a pas encore été résolue ce jeudi, quid d'un contingent militaire international sur le sol ukrainien pour garantir une paix durable? En tout cas, les pourparlers ont bel et bien commencé. Une autre session de discussion dans le même format aura lieu la semaine prochaine à Londres.
Merci Pierre-Olivier. Sur le terrain, l'armée ukrainienne revendique une rare contre-attaque réussie près de Pokrovsk, dans l'est du pays. Kiev affirme avoir, ces dernières semaines, repris environ 16 km² de territoire. Pendant ce temps, les forces russes continuent leur frappe. Ce jeudi, 3 personnes au moins ont été tuées et 10 autres blessées dans le sud du pays. De son côté, Moscou fait savoir qu'elle considérerait toute frappe sur des cibles russes avec des missiles allemands Taurus comme une participation directe de l'Allemagne à la guerre, avec toutes les conséquences que cela implique, a souligné la porte-parole de la diplomatie russe. Aux États-Unis, un juge affirme que l'administration Trump a délibérément bafoué son interdiction d'expulser des immigrés. Le juge fédéral parle même d'une forte présomption d'outrage au tribunal. Ces immigrés, ce sont les quelques 200 Vénézuéliens transférés à la mi-mars des États-Unis au Salvador. Le juge James Boasberg avait exigé que les immigrés ne soient pas extradés, ordre ignoré par le gouvernement. Gouvernement auquel le magistrat demande aujourd'hui de faire marche arrière sous peine de poursuite. Marine de la Moissonnière.
Selon le juge James Boasberg, l'administration Trump a délibérément bafoué sa décision. Le magistrat fédéral accorde désormais une semaine au gouvernement pour s'y plier, sans quoi il le poursuivra pour outrage au tribunal. La Maison-Blanche, qui a fait appel, a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ne comptait pas rapatrier ses migrants. Le Salvador non plus n'a pas l'intention de les renvoyer aux États-Unis, ni même de leur donner l'occasion de prouver qu'ils n'appartiennent pas aux gangs vénézuéliens traîne des Aragouas, comme l'affirme l'administration Trump. Jaime Ortega est l'avocat de 35 Vénézuéliens. Il n'a pas accès à ses clients.
Information officielle, ninguna.
Les autorités ne nous donnent aucune information officielle. Le gouvernement américain n'a même pas eu la décence de nous envoyer ne serait-ce qu'une décision de justice qui prouve que ces hommes ont bien été condamnés aux États-Unis pour appartenance à un groupe criminel. Ces personnes n'ont commis aucun délit au Salvador. Elles ne devraient donc pas se trouver dans une prison de haute sécurité.
Hier, un sénateur démocrate démocrates étaient sur place pour rencontrer Kilmar Abrego Garcia, ce salvadorien expulsé par erreur en même temps que les Vénézuéliens et détenu avec eux. Il n'a pas pu le voir ni même lui parler au téléphone. La justice américaine a pourtant ordonné son retour.
Et puis à noter que la Cour suprême des États-Unis a fixé au jeudi 15 mai une audience sur le décret du président Trump visant à abolir le droit du sol aux États-Unis. Le Fonds monétaire international n'envisage pas de récession cette année, et ce malgré les droits de douane de Donald Trump. Des droits de douane qui, selon le FMI, vont certes peser sur l'économie mondiale et provoquer son ralentissement cette année, mais sans la faire basculer dans la récession. Dans la bande de Gaza, la défense civile annonce la mort d'au moins 40 Palestiniens ce jeudi, tués dans de nouvelles frappes israéliennes, en très grande majorité des déplacés. De leur côté, 12 ONG, dont Médecins du Monde et Oxfam, soulignent que l'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total en raison du blocus imposé par Israël depuis le 2 mars, il y a un mois et demi, sur l'entrée de cette aide. Elles exhortent ces ONG, Israël, à les laisser faire leur travail. Et c'est la photo d'un enfant palestinien de 9 ans, blessé, qui a remporté ce jeudi le premier prix du très renommé World Press Photo. La photographe s'appelle Samar Abou Elouf et elle est la première femme photographe palestinienne à remporter ce prix. Isabelle Chenu.
Samar Abou Elouf est une photographe autodidacte originaire de la ville de Gaza, évacuée vers Doha en décembre 2023. C'est depuis le Qatar où sont soignés des réfugiés qu'elle va photographier le quotidien de blessés palestiniens. Parmi eux, le jeune Mahmoud, 9 ans. Une explosion lui a arraché les bras. Le World Press Photo a voulu récompenser un travail photographique mais aussi une image qui témoigne pour les générations futures et qui a donné un visage au lourd tribut payé par les enfants palestiniens. En recevant son prix, la photographe a souhaité attirer l'attention sur le sort incertain d'un de ses meilleurs amis blessé après une frappe sur une tente de journalistes à Khan Younes. Près de 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023, une hécatombe sans précédent mettant l'enclave palestinienne sous silence médiatique.
Annonce ce jeudi d'Emmanuel Macron, une commission franco-haïtienne d'historiens va se pencher sur la très lourde indemnité financière imposée par la France à Haïti, son ex-colonie, une dette qui avait lourdement handicapé la toute jeune République. Aujourd'hui, le président français n'a pas évoqué de réparation financière, mais hier, l'Élysée indiquait que le chef de l'État tirerait toutes les conclusions à l'issue de ce travail de mémoire. La présidente de la Conférence des religieux et des religieuses de France demande l'ouverture de toutes les archives sur l'abbé Pierre, y compris celles du Vatican. Objectif, permettre aux chercheurs de travailler sur ses agissements et sur l'impunité dont il a bénéficié. L'abbé Pierre est visé depuis l'an dernier par des accusations d'agression sexuelle. La demande de la Conférence fait suite à la publication ce jeudi d'un livre-enquête sur le religieux. Livre selon lequel le Vatican était au courant de ses agissements depuis 1955. Autre affirmation, le Vatican avait réclamé une procédure judiciaire qui a été freinée par les évêques de France. Il a fallu attendre 100 ans pour pouvoir le filmer en direct dans son habitat naturel. Un calamar colossal, c'est son nom, hein, le spécimen en question était plutôt petit, a été observé à 600 mètres de profondeur en mars dernier grâce à un système télécommandé du Schmidt Ocean Institute. Et cette année, cela fait 100 ans tout juste que l'on avait identifié le mollusque. Maintenant que les scientifiques ont des images, eh bien, elles se posent encore plus de questions. Juliette Pietraszewski.
Il est bien loin des monstres des mers décrits dans les légendes de marins. L'individu observé dans l'océan Atlantique Sud est un calamar de près de 30 cm de long, transparent, à la teinte rougeâtre avec des tentacules. Si les calamars colossaux adultes peuvent atteindre une dizaine de mètres de long et peser jusqu'à 500 kg, celui-ci n'est pas pour autant un bébé à proprement parler. Le docteur Aaron Evans est un scientifique indépendant spécialiste de la famille des calamars de verre. Il a identifié l'espèce une fois les images transmises par le Schmidt Ocean Institute.
On sait que les calamars colossaux adultes peuvent être très grands, mais on ne connaît pas vraiment ceux entre leur vie de bébé et d'adulte. Donc cette vidéo nous aide à combler un manque.
Et avec cette découverte filmée sous les mers, le docteur Aaron Evans se pose encore plein de questions.
Comment ça chasse? Comment ça se comporte dans l'eau? Le comportement qu'on a vu pourrait avoir été affecté par le fait qu'il y avait un véhicule bruyant avec de la lumière en train de le filmer sous l'eau. Le calamar croyait peut-être qu'on était des prédateurs.
Le scientifique espère qu'à l'avenir, de nouvelles technologies moins intrusives pourront permettre de capturer des images de ces calamars colossaux.
Juliette Pietraszewski. Et puis le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique était en visite ce jeudi à Téhéran, deux jours avant de nouveau pourparler entre les États-Unis et l'Iran. Raphaël Grossi a estimé que le temps était compté pour trouver un accord sur le nucléaire. Et on retrouve